Nous allons ouvrir le Saint-Livre. Je voudrais citer un verset que vous ne cherchez pas. L'apôtre dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Et je pense pouvoir dire qu'il y a au milieu de nous des frères, des sœurs qui se privent de la grâce. C'est vraiment dommage de se priver de la grâce de Dieu. Certains d'entre vous n'ont pas fait de progrès pour cette raison. Vous vous êtes privés de la grâce de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul introduit toutes les lettres aux églises, qu'il soit en liberté ou qu'il soit en prison, en tous les cas, lui, il est en liberté totale, où qu'il soit, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Et c'est ce que je voudrais ce matin vous rappeler, que la grâce et la paix nous sont données. La paix nous est donnée à un grand prix. Vous connaissez ce verset dans Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc la paix que Dieu donne, elle a coûté très très cher au Seigneur. Ça serait dommage que vous vous en priviez. Alors nous allons lire des versets sur la paix. Par exemple, le premier dans le sermon sur la montagne, qui est un encouragement. Et Matthieu, chapitre 5, verset 9, il fait partie de ce qu'on appelle les béatitudes, le nombre de fois où Jésus indique comment un homme peut être heureux. Oui, il y a de la joie. Je suis peut-être... Enfin, c'est une pensée que j'ai. Quand vous avez chanté tout à l'heure ce vieux cantique, « Dimanche, je suis joyeux », le lundi plein de joie. Mais ce cantique qui rappelle que tout le long de la semaine, nous pouvons avoir une grande paix dans notre cœur. C'est la vérité. Matthieu 5, verset 9, Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Cela devrait être un de nos objectifs, procurer la paix aux autres. Oui ou non? Heureux ceux qui procurent la paix. Après l'enlèvement de l'Église, il n'y aura plus de paix sur la terre. Le monde est en colère, les nations sont en colère, mais ce n'est rien à côté de ce qui vient. Un des premiers sceaux dans le livre de l'Apocalypse, c'est que un ange est envoyé pour enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Ce que vous voyez, le petit peu que vous voyez, sont les prémices de la colère. Un jour, il n'y aura pas la paix. Mais aujourd'hui, et jusqu'à l'enlèvement de l'Église, tous les chrétiens peuvent se lever et se coucher en paix. Car Jésus donne la paix. Regardez cet autre texte dans l'évangile de Jean. Au chapitre, on va lire deux ou trois versets. C'est Jésus qui parle, il va mourir, il va donner sa vie pour que nous ayons la paix. Il le leur rappelle avec beaucoup de tendresse et beaucoup de sérieux, bien sûr, ce sont les derniers discours de Jésus en tant qu'homme sur la terre. Jean chapitre 14, verset 27, il faudrait tout lire en vérité. Tout lire, tout ce que Jésus a dit, pour que leur cœur soit apaisé. Mais regardez bien, on va lire deux vertus que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas des choses que l'on mérite, ce sont des choses que l'on reçoit comme un don. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alléluia. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde y donne, mais vous savez comment il donne. Que votre cœur ne se trouble pas. Au verset 11 du chapitre qui suit, le Seigneur donne une autre vertu. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que c'est une chose d'avoir la joie et ça n'est une autre d'être rempli de joie. Le Seigneur donne. Et si ce matin nous ne vivons pas par la foi, c'est sûr que nous n'allons pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Il vous donne sa paix, il vous donne cette joie, moi c'est le mot, je sais qu'il est mal compris, les gens, ils veulent c'est une satisfaction intérieure. Mais regardez, c'est vrai quand même, ça fait peine, regardez la réaction. Ils ont tellement bien compris, au verset chapitre 16 et au verset 6, n'oubliez pas qu'il parle aux apôtres, aux hommes qui vont être, une fois baptisés du Saint-Esprit, chargés de changer le monde. Regardez bien ce qu'il leur dit. Mais parce que je vous ai dit ces choses, alors regardez en parlant de paix et de joie, ce qui s'est passé. Non mais sérieusement, c'est pathétique. Parce que je vous ai dit ces choses, qu'est-ce qui se passe à la place? La tristesse a rempli votre cœur. Comme quoi, nous avons du mal à comprendre. Et si nous ne comprenons pas, nous allons avoir du mal à rentrer dans la volonté de Dieu. Vous vous rappelez, quand je fais une digression, mais quand Jésus a demandé à ce qu'il leur lave les pieds, Pierre, lui, bien sûr, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?»« Non, tu ne me laveras pas les pieds. » Et Jésus va lui dire, « Écoute, Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. » Et il rajoute, « Si on ne comprend pas les choses, ça va être compliqué. » Et il rajoute, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Ce qu'on ne comprend pas nous empêche d'être en communion avec Dieu. Vous pouvez le calculer comme vous voulez. Je vous donne ma paix. Alors, puisqu'on est dans Jean, Jésus, dans le chapitre 10, avec beaucoup de tendresse, leur dit ce qu'il est vraiment. Et nous en avons besoin de le réentendre. Jean, chapitre 10, versets 9 et 10. Regardez ces deux versets qui résument très bien ce qui peut se passer. Je suis la porte. Si vous voulez aller au ciel, il vous faut passer par Jésus-Christ. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Après, il entrera. Après, il sortira. Et après, il trouvera des pâturages. Vous avez déjà vécu dans une bergerie ? Vous avez déjà été dans une bergerie ? Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes rentré dans une bergerie ? L'odeur, c'est vraiment pas agréable. Oui ou non? Et ce texte nous dit qu'on n'est pas fait pour être dans une bergerie. Il est dit que nous entrerons, que nous sortirons et que nous découvrirons des pâturages. Le voleur, verset 10, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, c'est le Seigneur qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance, je suis le bon berger. Jésus nous parle du diable comme étant un voleur. C'est un voleur. Jésus dit, je vous donne ma paix. Et Jésus, dans ce contexte où il nous rappelle qu'il donne la vie, et la vie en abondance, il nous rappelle que le diable est un voleur. Et s'il peut tout vous prendre, il vous prendra tout. La paix, la joie du salut. S'il peut nous maintenir dans la désobéissance, dans la tristesse, dans l'abattement, pour que nous ne procurions pas la paix aux autres. Car quand même, c'est une des premières questions que nous pourrions nous poser, est-ce que je procure la paix autour de moi? Ça, vous pouvez quand même le savoir. Vous vous rappelez, dans 1 Samuel, au chapitre 30, on pourrait y aller quand même. On ne va pas tout voir, mais j'aimerais que vous preniez cette habitude de méditer les textes que je vous donne le dimanche matin dans la semaine. Certains, vous ne le faites pas, certains, ça ne vous intéresse pas. Si vous me dites que vous n'avez pas le temps, ce n'est pas vrai. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez dire, ah, ce chapitre 1 Samuel, chapitre 29 et 30 en vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que David en arrive à cette situation? Regardez bien dans quelle affaire il va se trouver. 1 Samuel, chapitre 30, verset 1er. C'est important comment le diable nous vole tout. Pourtant, c'était David. 1 Samuel 30, verset 1er. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Médi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées à Shiloh de Jisréel, Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Verset 6. David fut dans une grande angoisse. Ça arrive, vous voyez. Car le peuple parlait de le lapider. Parce qu'il faut toujours un responsable, c'est comme ça. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais, lui seul, j'ai envie de dire, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je ? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Verset 17, pour nous rappeler quand même qu'il y a des combats, pour reprendre certaines choses. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne. Ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé, David ramena tout. David ramena tout. Et si vous lisez la suite, vous verrez même qu'il en a ramené un peu plus encore. Alors voilà, cette affaire, ces deux chapitres, ça vaut la peine de les méditer. C'est écrit pour nous enseigner comment on peut perdre tout ? Comment on peut tout ramener ? Alors il faudrait peut-être méditer le chapitre 29, alors, ne le faites pas. Mais David s'est mis dans une situation où il n'aurait pas dû se mettre. Et il a été empêché de faire quelque chose qui aurait pu vraiment se retourner contre lui. Et mes frères et sœurs, souvent, nous avons perdu, ou le diable nous a volé, mais mettez-le comme vous le voudrez, parce que nous n'étions pas à notre place. Vous ne l'avouez peut-être pas, vous ne le réalisez peut-être pas. Paul dit souvent, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, mais je vous dis très solennellement que bien souvent, le diable nous a volé la paix, la grâce. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Des choses que Dieu donne, il y a des choses que l'on obtient. Parce que le courage fait, comme je le disais hier après-midi, j'ai été poussé hier après-midi à partager des choses qui correspondaient presque aux anciens de l'Église. Ce jeune homme, Chama, qui s'est mis au milieu d'un champ de lentilles et qui est considéré comme ces vaillants héros de David, parce que cet homme, il a eu du courage. Tout le monde a fui. Tout le monde a fui et lui, il a dit non. Alors on peut dire, oh, c'est ces gars, ces héros. Non, ce sont des hommes qui ont voulu faire des progrès avec Dieu. Et on peut dire un champ de lentilles. Un champ de lentilles, ça représente la nourriture pour la famille et pour le peuple de Dieu. Des gens qui ont du courage, qui même si tout le monde s'en va, dis-moi, je resterai là et je défendrai le champ, je défendrai l'église, je défendrai ma famille, je ferai tout pour que l'église soit nourrie de la sainte parole. David a tout perdu, il est revenu dans sa ville, il a fait une erreur. Et mes frères et sœurs, le diable a souvent bon dos. C'est grave quand on diabolise tout. Il y a des églises, même chez nous, des églises pentecôtistes, où on a tout diabolisé. C'est très, très, très efficace, la diabolisation. Ça nous déresponsabilise. Nous devons avoir cette honnêteté, comme David, qui a perdu un an encore dans un autre contexte où il n'était pas à sa place, et il s'est fait avoir une deuxième fois, quelques années plus tard. Mais il a été honnête quand il a été confronté à la vérité, il a dit « tu veux », il a dit à Dieu « tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur ». Et nous devrions avoir cette attitude-là, cette honnêteté. Mais qu'est-ce que j'ai perdu depuis ma conversion? Qu'est-ce que j'ai perdu depuis quelques semaines? C'est quand même, si ça ne vous intéresse pas, c'est grave. Mais quand même, nous pourrions tous avoir cette simplicité de cœur et nous poser vraiment la question, mais qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Je ne parle pas si vous manque 50 euros pour arriver à la fin du mois. Je sais qu'il y a des trucs matériels qui peuvent... Je ne parle pas de ça. Je vous interpelle sur le spirituel. Mais cette paix, Dieu la donne. Ce n'est pas le résultat j'ai fait des progrès, j'ai fait de super progrès déjà, tiens, depuis 6 mois. Oh, j'ai fait des progrès, c'est normal que j'ai davantage de paix. Non, ça n'a rien à voir. La paix, c'est un don. La grâce, c'est un don gratuit. La joie du salut, vous pouvez l'avoir même dans la tempête. Et nous devrions quand même nous interroger, mais est-ce que je suis à ma place? Est-ce que les choix que je fais en ce moment, en fait, ça m'éloigne de Dieu? Ça permet à l'ennemi de me voler, parce que le diable ne peut voler que ce qu'on lui laisse voler. Oui. Un chrétien, il doit vivre dans la paix. Dieu est un Dieu de paix. On pourrait lire quelques versets, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire pour rendre pratique cette exhortation, parce qu'une exhortation qui n'est pas pratique, elle ne sert à rien. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Il y a une salutation, et je voudrais, mes frères et sœurs, en tous les cas, c'est comme ça que moi je travaille en tant que pasteur. Mais ça, je pense que ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs, ça peut être, tout le monde peut le faire. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11, je travaille comme ça pour préparer mes sermons. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. 2 Corinthiens 13, verset 11, où il est dit, à la fin du verset 11, vous avez remarqué, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vous êtes d'accord? Vous avez comme ça dans votre dernière phrase de ce verset? Mais il est dit, et le Dieu de paix. Donc, qu'est-ce que c'est qui fera que le Dieu de paix sera avec nous? Eh bien, regardez le verset en entier. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent des choses agréables, des promesses, et la Bible est remplie de promesses. Il y a des milliers de promesses dans la Bible. Et ces promesses, elles ne sont pas pour nous. Dieu ne les a pas faites pour lui. Si vous pensez que Dieu a fait des promesses pour lui, vous êtes très loin de Dieu. Toutes les promesses, elles sont pour nous, c'est évident. C'est évident. Mais les promesses, elles sont liées à un état de cœur. Et regardez ce que l'apôtre dit pour que le Dieu d'amour et de paix soit avec nous. Mes frères, au reste de tous ces enseignements, soyez dans la joie, c'est la joie du salut. C'est pas la joie de dire je suis content, moi on m'a augmenté, ou tiens, j'ai plus matériellement. Mais non, c'est ça, c'est la joie du salut. Perfectionnez-vous. Tiens, donc, est-ce que ça vous intéresse de faire des progrès? Vous pouvez me répondre. Est-ce que vous soupirez à faire des progrès avec Dieu? Est-ce que vous aimeriez, tiens donc, progresser et en arriver à ressembler à Éléazar, qui lui aussi a défendu un champ d'orge, je pense à lui parce que c'est un copain à Chama, des gars qui se sont élevés dans leur progrès et qui ont protégé les champs et qui ont nourri le peuple de Dieu. C'est pas beau ça quand on nourrit le peuple de Dieu? Ça n'a pas été écrit pour qu'on dise « Ah, il y a des héros ». Je le répète, ça a été écrit pour que nous aussi, nous nous élevions dans la perfection. Si le perfectionnement ne vous intéresse pas, vous aurez du mal avec cet entretien de paix. Perfectionnez-vous, consolez-vous. Vous savez, on a tous des casseroles hein, ou des difficultés. Il faut qu'on soit capable de se consoler les uns les autres. Oui ou non ? Vous devez même. Mais je vous mentionne avec ceux que je me traîne, c'est normal que je sois, que mon caractère soit difficile. Parlez-en au Seigneur. Parlez-lui. Parlez-lui. Moi, je pense qu'on peut être dans le deuil et faire du bien à quelqu'un aussi. Oui ou non ? Etc. Ayez un même sentiment, vivez en paix. Et, c'est évident, la promesse se mettra en marche. Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. Donc, la paix de Dieu va dépendre de cette attitude de cœur. Je m'applique à faire des progrès. J'étudie la Bible pour comprendre la promesse. Oui, je la saisis, mais quel est le contexte de la promesse ? Comment faire pour obtenir cette promesse ? Cette semaine, j'ai visité une chrétienne, ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais vous résumer le témoignage, ce qu'elle m'a dit. Nous parlions de la simplicité de Christ. Et nous parlions de cette affaire que beaucoup de chrétiens se privent de la grâce de Dieu. Cette chrétienne m'a dit ceci. Vous savez, quand je me suis converti, au bout de, je ne me rappelle plus, mais au bout d'un an, ça je l'ajoute, au bout d'un an, je me suis rendu compte que ma vie spirituelle n'était pas ce qu'elle aurait dû être. Vous savez ce qu'elle a fait ? Elle m'a dit, j'ai pris le psaume 23. Je l'ai lu 10 fois. Et je me le suis approprié. Et depuis, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et cette sœur, je la connais depuis 20 ans. Puisqu'elle est dans l'Assemblée, et je peux vous dire que j'ai vérifié ce qu'elle dit. Dans tout ce qu'elle a traversé, tout, des trucs difficiles, et elle continue à traverser des trucs difficiles, je peux vous dire qu'elle s'est appropriée cette affaire, elle s'est dit, mais non, moi je ne vis pas le psaume 23, je vais le vivre, mais que c'est beau quand vous voyez des gens, qui... et c'est vrai, je lui demanderai de rendre son témoignage. On va s'accrocher un moment, mais ça ne fait rien, je lui demanderai de rendre son témoignage. Vous ne trouvez pas que c'est une grâce, ça ? Des gens qui sont déterminés. Tu demandes, Seigneur, que nous nous approprions ces choses. Quand Dieu dit, perfectionnez-vous, je ne sais pas ce que vous mettez derrière. C'est un commandement, c'est subalterne, c'est important, ce n'est pas important. Mes frères et sœurs, si le Seigneur nous demande de nous perfectionner, c'est parce que c'est important que nous fassions des progrès. Je vous donne la paix. Un autre texte dans Ésaïe, et ça correspond vraiment au témoignage de notre sœur. Ésaïe 26, il y a plein de versets, je vous en donne 4, je vais vous en donner 4, peut-être plus. Parce que quand même, mes frères et sœurs, je le répète, le diable c'est un voleur. Et je le répète, s'il peut tout vous voler, il vous volera tout. Tout. On vous a déjà volé quelque chose dans la maison ? Est-ce qu'on vous a déjà volé quelque chose ? Il y a des fois, on ne s'en rend pas compte. Moi, quand j'étais à Tahiti, on nous avait volé la télé. Et vous savez, on m'avait volé une paire de baskets. Je m'en suis rendu compte quelques mois après, tellement je les utilise. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, alors c'est dans ses pensées, ce n'est pas les émotions, vous comprenez bien qu'on est loin des émotions. Là. À celui qui est ferme dans ses pensées. Spirituel. Qu'est-ce qui se passe ? Tu assures la paix, et il répète, la paix. Pourquoi ? Parce qu'il croit en Dieu ? Non, parce qu'il se confie en Dieu. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens croient, je l'ai répété sincèrement des centaines de fois ici. Ça me fait presque de la peine, mais enfin, je dois insister, c'est pas trop mes émotions qui sont importantes. Beaucoup de chrétiens croient en Dieu, ils croient de tout leur cœur, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Tant que vous n'aurez pas confiance en Dieu, vous perdrez cette paix. C'est pas, écoutez-moi bien, je l'ai dit 100 fois, 200 fois, et ce que je vous ai dit tout à l'heure n'est pas intelligent, quand je vous dis ça me fait de la peine, mais parce que je n'ai pas à savoir si ça me fait de la peine ou pas, je dois dire ce que j'ai à dire. Mais mes frères et sœurs, c'est quand même dommage, avec le Dieu que nous avons, le Seigneur que nous avons, S'il nous a donné son Fils, comme dit Paul, au calvaire, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ? Et là, c'est d'une simplicité, c'est enfantin ce que je vous dis. Un enfant peut le comprendre. À celui qui est ferme, Seigneur, tu l'as dit, je le crois. Tu as promis que tu me garderais, tu me garderas. Il n'y a pas besoin d'avoir une intelligence supérieure pour le saisir. C'est une question de cœur. Souvent on me dit, oui, mais vous savez, je n'ai pas été à l'école. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'ouverture de cœur. Ce matin, je lisais dans plusieurs livres, j'ai lu le prophète Amos. Amos, c'était quoi Amos ? C'était pas Daniel, c'était pas Josué. Amos, c'était un berger, un gars qui élevait des moutons, un gars qui comment il s'appelle ? Il plantait des sycomores. D'ailleurs, c'était pas la fine fleur. Eh bien, il est devenu prophète. C'était un homme tout simple. Tout simple. Et quand Dieu dit, tu assures la paix aux hommes qui se confient en toi. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez confiance en Dieu ? Quand vous avez chanté tout à l'heure, en son temps, si vous venez pour les premières fois, sachez que les cantiques que nous chantons, en tous les cas ici, sont des cantiques qui sont tirés de la parole de Dieu. C'est l'Ecclésiaste qui dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Est-ce que vous croyez que Dieu fait tout en son temps ? Quand j'entends des chrétiens, mais franchement, moi ça me fait de la peine qu'ils soient en train de contester, je comprends pas pourquoi le Seigneur n'est pas encore revenu. Ah, il a oublié, il s'est trompé. Il a dû oublier. Non, mais sérieusement. Sérieusement, frères et sœurs. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur n'a pas encore enlevé l'Église. Non, mais franchement, vous ne croyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas ? Je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis ça. Ah, moi, monsieur Gauche, je ne comprends pas. Je suis à deux doigts de quitter l'Église. Dieu n'a pas permis que ma fille se marie avec un inconverti. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne l'a pas empêché. Mais vous ne t'empêchez pas. Mais on n'est pas des robots. Hein. Non, mais sérieusement, des âneries pareilles. Si votre fille, elle veut se marier avec un inconverti, eh bien, elle se mariera avec un inconverti. Dieu ne va pas l'empêcher. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si les chrétiens sont sérieux avec Dieu. En plus, ce n'est pas comme ça qu'ils vont procurer la paix. Hein. En disant à une nouvelle personne qui découvre l'Évangile, « Ah, je ne comprends pas pourquoi Jésus n'est pas encore arrivé. Moi, ces gilets jaunes, ça me... » Franchement. J'espère que ces chrétiens sont prêts. Parce que s'ils ne sont pas prêts, ils vont quand même vérifier ce que je vous ai dit en début. Que quand Dieu aura enlevé la paix de la surface de la terre, laissez-moi vous dire que ça sera un autre registre. Le Seigneur est assis sur son trône, couronné de gloire et d'honneur. Il règne. Notre Dieu règne. Il ne passe pas son temps à essayer de colmater les machins qui arrivent. Il règne. Il règne au siècle des siècles sur tout. Et il nous rappelle qu'il donne la paix. Le diable vous l'a volé. Je ne vois pas trop de reproches dans cette affaire de combat. Le seul reproche qu'on pourrait faire à Jésus, c'est sur les hypocrites, les pasteurs qui sont des hypocrites. Ça, on le voit souvent. On ne voit pas trop Jésus reprocher les combats des chrétiens, parce qu'il y a des combats. Mais quand même, si on se perfectionne, on prend ce verset à cœur, on va se l'approprier, comme la sœur dont je vous parlais tout à l'heure, qui a lu le psaume 10 fois, elle ne l'a pas lu avec la tête. Elle a lu avec son cœur, elle a dit « je me l'approprierai ». Et on devrait peut-être s'approprier ce verset, Seigneur, mais je vais être ferme. Si tu me demandes de ne m'inquiéter de rien, c'est un commandement. Vous croyez que Dieu nous prend pour des demeurés ? Quand le Seigneur nous dit avec « ne vous inquiétez de rien », le lendemain aura soin de lui-même. Mais ça veut dire « mais je suis Dieu, je m'occupe de tout ». Mais vous le croyez, frères et sœurs ? Vous croyez que si on est là ce matin, c'est parce qu'on est meilleur que les autres, c'est sûr ? Non ? Pourquoi on est là ? Parce que Dieu nous a gardés. Il nous a gardés, il nous a prouvé sa fidélité et il continuera et il nous gardera. Je ne sais pas si vous, avez quand même capté, Dieu va nous bénir éternellement. Ça fait long, comme dit quelqu'un, surtout sur la fin. Ça va faire long l'éternité. Dieu a tout prévu. Ça ne vous rassure pas? Moi, je trouve que c'est réconfortant quand même. À celui qui est ferme dans ses pensées, Seigneur, je refuse que l'ennemi me vole ces choses. Je suis peiné, moi, quand je vois des chrétiens qui remettent tout en question. Mais si j'avais su, j'aurais jamais fait de gosse. Quand je vois comment ils sont devenus. Vous croyez que ça honore Dieu, ça? Vous croyez? Et après, on parle en langue. Philippiens, chapitre 4. Si vous êtes ferme dans vos pensées, mes frères et sœurs, vous garderez la paix. Si vous n'êtes pas ferme, vous la perdrez. Dans Philippiens, texte que je n'ai jamais lu ici dans l'Assemblée, parce que je n'ai pas tout lu en 20 ans, mais je vais quand même le lire pour la première fois dans cette église. Philippiens chapitre 4, verset 4. Et oui, un jour tout arrive. Je vais vous lire ce verset pour la première fois. Et c'est peut-être vrai pour quelqu'un. Philippiens chapitre 4, verset 4. Paul est en prison. Je ne sais pas combien de fois il demande aux chrétiens de se réjouir. C'est impressionnant. Vous savez, cette semaine, j'ai lu le prophète Jérémie. C'est le livre qui m'est le plus dur à lire. Franchement, pour moi, c'est le livre qui m'est le plus difficile à lire. Eh bien, je peux vous dire qu'il est en prison souvent, longtemps, et Dieu lui parle. Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Alors, ce n'est pas le retour du Seigneur. Le Seigneur est proche. Le mot, il est accessible en vérité. Le Seigneur est là. C'est ça que ça veut dire. Il répète. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc si nous faisons ce que nous venons de lire, qu'est-ce qui va se passer? Et vous savez que c'est des conjonctions, j'en ai souvent parlé parce qu'il faut le dire, ça relie que la paix de Dieu va dépendre de ce qu'on vient de lire. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, parce que vous savez, l'intelligence, c'est bien d'analyser une situation, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça, quelqu'un qui se réjouit, ce n'est pas quelqu'un qui saute en l'air, qui est en dehors de la réalité. Quelqu'un qui se réjouit, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Tu me dis de ne pas m'inquiéter, je ne m'inquiète pas. Moi, cette semaine, sincèrement, j'ai fait une belle expérience avec le Seigneur. J'ai été interpellé dans la voiture, je méditais ce verset que j'ai lu tout à l'heure avant que le culte ne commence. Demandez et vous recevrez. Vraiment, je l'ai. Et j'ai dans la voiture, j'ai dit, Seigneur, je vais prier. Et je prie, je prie. Mais j'ai demandé à Dieu quelque chose. Je l'ai demandé vraiment. Parce qu'une situation s'était présentée qui contrariait mon plan. Par rapport à une situation qu'on doit faire avec ma femme dans quelques mois. Il dit, mais Seigneur, je ne vais pas m'inquiéter. Alors Seigneur, tu agis. Et je peux vous dire que le lendemain, le Seigneur, il a réglé la situation. Mais vraiment, ça ne pouvait pas venir d'autre que de lui, puisque je n'en ai parlé à personne. Ne vous inquiétez de rien. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence, parce qu'on est tout le temps nous en train de... Oui ou non? Ça turbine là-dedans. Si je vous disais ce soir, à 8h30, vous écrirez tout ce que vous avez pensé dans la journée. Vous n'êtes pas prêt de vous coucher. Parce qu'il s'en passe des choses là-dedans. Ne vous inquiétez de rien. Je sais qu'on peut s'inquiéter. Je me suis inquiété, moi, 3 minutes. Mais avant, je me serais inquiété peut-être 3 heures. Est-ce que vous avez compris ma pensée? Peut-être il y a 5 ans, je me serais inquiété 1 heure. Ainsi de suite. C'est tout à fait normal quand on reçoit une mauvaise nouvelle, une contrariété, qu'on ait la boule au ventre, ah, ça nous contrarie. Mais ça peut durer 30 secondes, comme ça peut durer 3 minutes, ça peut durer 3 heures, ça peut durer 3 jours, ça peut durer des mois. Pourquoi ne pas réagir, Seigneur? Non, je refuse de m'inquiéter. Parce qu'il n'est pas dit, ce n'est pas normal que vous vous inquiétez. Le Seigneur n'en arrive pas là. Parce qu'on n'est pas des animaux et des bêtes et des robots. On est des enfants. Et le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais regardez la suite. Elle est liée. Regardez, ce n'est pas fini. Parce que recevoir la paix de Dieu, c'est bien. Et c'est merveilleux. Mais ce n'est pas fini. Au reste, verset 8, frères, il nous demande d'entretenir une certaine pensée, comme on l'a lu dans Ésaïe 26. Frères, que tout ce qui est vrai, c'est ça ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Vous voyez que ça en fait quand même des vertus. Hein. Alors qu'est-ce qui nous est demandé? Que tout cela soit l'objet de vos pensées. Vous voyez, nos pensées captives à ces choses. C'est sûr que si on passe des heures devant YouTube ou je ne sais pas quoi, enfin regarder des bêtises, ça va être dur, hein, je vous le dis. Verset 9. Ce que vous avez appris, il faut l'apprendre, oui, c'est clair. Il y a les révélations, c'est clair. Mais ça s'apprend, c'est ce qu'on fait. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu à moi, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pratiquez-le. Regardez la conjonction qui suit. Et, là, ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix de Dieu. C'est un petit peu mieux, je trouve. Et le Dieu de paix sera avec vous. Est-ce que vous avez saisi la différence? Je reçois la paix parce que là, dans le quart d'heure qui vient de suivre mon épreuve, ma contrariété, Seigneur, je me réjouis, merci pour le salut, c'est vrai qu'il y a des choses de plus graves, etc., etc. Seigneur, merci, je me réjouis. Je ne m'inquiète pas, je te demande pardon, je me suis inquiété, voilà, et je reçois la paix. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant entretenir son esprit, son âme, ses pensées, des choses spirituelles. Et si je fais ça, ce n'est pas la paix de Dieu. C'est le Dieu de paix qui reste avec moi. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, quand ils font leur culte, ils sont heureux. Quand ils font leur culte, ils prient, ils lisent leur Bible, ils viennent à l'église. Et bien sûr, la paix de Dieu est notre partage. Peut-être c'est le cas maintenant. Peut-être que vous avez la paix. Mais il ne faut pas avoir la paix de Dieu pendant le culte. Il faut avoir la paix de Dieu pendant le culte. Et il faut que quand on parte dans la rue, et quand on arrive à la maison, et demain matin quand le réveil va sonner, et quand on va voir le patron, il faut que le Dieu de paix soit toujours avec nous. Mes frères et sœurs, je vous donne la paix, mais ce n'est pas magique. C'est le résultat d'une attitude spirituelle. Oui, je fais des progrès. Et je veux faire partie de ceux qui sont vraiment des enfants, heureux, ceux qui procurent la paix. Un dernier cas, mais vous pouvez le faire avec la concordance, je vais former que des petits pasteurs dans cette église. Dans Romains au chapitre 1, ça serait drôle hein, d'avoir une église qu'avec des pasteurs hein, en formation. Non ? Il y en a déjà quelques-uns, c'est bien. Romains, regardez, on va lire un autre cas, mais c'est d'une simplicité enfantine. Romains, chapitre 8, verset 5, 6, jusqu'au verset 9. Notez-le, Romains 8, 5 à 9. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionne aux choses de la chair. Bon, jusque-là, ce n'est pas quand même difficile. Ceux qui vivent selon l'esprit, avec un E majuscule, donc selon les choses du Saint-Esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, ce n'est pas compliqué. Si nous sommes charnels, nous nous affectionnons aux choses charnelles. Si nous sommes spirituels, nous nous affectionnons aux choses spirituelles. Donc, verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est quoi ? C'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Voilà le vrai hic. c'est qu'en vérité, ce sont des chrétiens qui croient en Dieu, mais ils ne se soumettent pas. Quelqu'un peut dire, mais non, mais il a facile, lui, de dire, ne vous inquiétez de rien. Vous voyez les gens qui sont charnels, ils peuvent dire, mais il a facile, monsieur Gou, il est dans une bonne assemblée, il a une bonne église, il a une bonne famille, etc., etc. Ça lui est facile de dire, ne vous inquiétez de rien. Mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas tout ce que j'ai vécu. Ce n'est pas une question d'avoir vécu ou de ne pas avoir vécu. C'est une question de se soumettre à la loi de Dieu. Et si vous commencez à vous comparer aux gens, on a vu ça, oui, j'ai vu ça. Monsieur Gros, si vous saviez ce que j'ai souffert, si vous saviez ce que j'ai enduré, et dans mon enfance, tatati, tatata, si je suis un caractère comme ça, un caractère de cochon, j'ai entendu ça, oui, c'est beau pour des chrétiens. C'est pas ma faute. Mes frères et sœurs, c'est sérieux ça. Le problème, c'est qu'on a scandalisé des gens et on a perdu des âmes avec ça. Ou je m'affectionne aux choses de l'esprit, voilà, Dieu le dit, c'est important, c'est bien, c'est utile. Voyez, moi, l'histoire de Chama avec son champ de lentilles, moi, la première fois que j'ai lu ça, il y a 35 ans, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et vendredi soir, j'étais en train de prier dans mon lit et j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. Parce que c'est un homme qui s'est retrouvé seul. Parce que je pensais à Paul, à toutes les fois où il était seul. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la révélation, elle grandit. Ceux qui s'affectionnent selon la chair, si vous aimez les choses charnelles, vous avez la mort. N'allons pas jusque la mort, je ne parle pas de mort physique, je parle de cette mort spirituelle. Mon âme est morte, même David a dit, mon âme est morte. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine de dire, mais moi je vais m'affectionner aux choses de l'esprit. Ça se vérifiera, ce n'est pas compliqué, ça se vérifiera avec les autres. Heureux ceux qui procurent la paix. Si vous ne procurez pas la paix, sincèrement, soyez honnête. Si vous ne procurez pas la paix, mais faites-en une affaire. Si votre mari, votre épouse, vos enfants vous disent, mais non papa, tu nous fatigues, eh bien, dites-leur pardon. Et mettez-vous à genoux. Ne commencez pas à dire, oui, mais tu comprends ce que j'ai traversé. Non. Si vous n'avez pas d'excuses, vous n'avez pas besoin de grâce. Vous comprenez ce que je veux dire? La grâce, ça veut tout dire. C'est qu'on a besoin parce qu'on s'est loupé. Heureux ceux qui procurent la paix. Et je termine parce qu'on a du temps. Je ne savais pas si je devais le... Mais je vais le faire. Dans le livre des juges, vous avez un jeune homme qui est en train de travailler. Et j'ai remarqué dans la Bible que tous les hommes, écoutez bien, ou femmes, que Dieu utilise, ils sont tous en train de bosser. Oui ou non? Tous. Si vous êtes paresseux et feignants, venez me voir. D'accord? J'ai du temps. Gédéon souffre, tout Israël est malheureux. Ils sont tous malheureux. C'est écrit, Juges chapitre, je l'ai marqué, 6. Vous le lirez. Ils sont tous malheureux. L'ennemi leur vole tout. Et je dis, oh, mais il est contrarié, mais il bosse. Il est à la cave en train de moudre du blé ou du froment. C'est pareil pour les profanes, c'est pareil. Il est en train de moudre du froment dans le pressoir à vin. Enfin, mais il bosse. Pourquoi il fait ça? Eh bien, il cache de la farine pour sa famille. Ça s'appelait à Dieu. Ça plaît à Dieu. Et Dieu va se révéler. Dieu va aller vers lui. Vous voyez, il est comme Chama. Il fait quelque chose pour sa famille. Ce n'est pas un guerrier comme Chama, mais en fait, c'est quelqu'un qui va le devenir, en tous les cas. Dieu va vers lui. Il ne sait pas que c'est le Seigneur. Il ne sait pas. Vous savez, quand on est là, on ne réalise pas qu'au travers de mon ministère, c'est aussi le Seigneur qui peut vous parler. Que sa grâce est là, que son esprit est là, et puis il est touché, le Seigneur lui corrige sa pensée, etc. Et puis il commence à être touché, et il dit, mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, vous voyez, il commence à capter qu'il peut avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu. Peut-être que c'est une réflexion que vous pouvez vous faire ce matin, tiens, mais j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur aussi en étant là ce matin dans la maison de Dieu, oui ou non? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi t'offrir un sacrifice. Ça vient de lui. Écoutez-moi, frères et sœurs, il y a des choses, ça vient de Dieu, mais il y a des choses, il faut que ça vienne de nous. Si j'ai trouvé grâce, laisse-moi t'offrir un sacrifice. Personne n'y a demandé, et il offre un sacrifice. Attends-moi jusqu'à ce que je revienne. » Alors il prépare son sacrifice, ça prend du temps de tuer un agneau, etc., de l'offrir, etc. Il ne sait pas qu'il a affaire à l'ange de l'Éternel, au Seigneur Jésus lui-même. Ce qu'on appelle une christophanie. Et il offre un sacrifice, et quand il offre le sacrifice, le Seigneur il réalise qu'il a affaire à Dieu. Mais nous aussi, nous devrions réaliser que nous avons affaire à Dieu. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour, je ne sais pas moi, pour les assemblées de Dieu. Nous sommes là pour le Seigneur Jésus. Et il va faire quelque chose de plus, de lui-même. Ça va mal. Ça va très mal. Il n'y a pas la paix. Et il va offrir un autel. On va lire ce qui nous intéresse. Mais je pense que c'est une histoire que nous pourrions méditer. Dans le livre des Juges, chapitre 6, donc, regardez bien, c'est important, frères et sœurs, parce que même s'il n'y a pas la paix autour de vous, vous pouvez la voir en vous. S'il n'y a pas la paix dans l'église où vous êtes, je ne parle pas d'ici, mais je sais qu'il y a des milliers de gens qui écoutent. Si vous n'êtes pas dans l'église, en paix dans l'église où vous êtes, vous pouvez l'avoir dans votre cœur et être un instrument de paix. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon, Juges chapitre 6, donc verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Vous voyez, il connaissait la loi. Et l'Éternel lui dit « Sois en paix. » Ah, vous voyez comment elle revient la paix ? On offre un sacrifice ? On se reconsacre à Dieu. Sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. Et regardez ce qu'il fait de lui-même. De lui-même, frères et sœurs. Je voudrais qu'on soit saisi par cette pensée. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. C'est drôle. Mais ça, ce n'est pas écrit. Et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui. Cette expression, ça veut dire que la paix de Dieu, elle demeurera toujours. À Ophra. Dieu va lui demander de régler un problème dans sa maison, du verset 25 au verset 30. Et c'est bizarre. Au verset 34, c'est bizarre ça. Non, enfin, c'est bizarre. Mettez-le entre guillemets. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et je peux vous dire qu'ils étaient malheureux. Regardez juste, puisqu'on est dans le livre, Juges 6, verset 6. Israël fut très malheureux. Je vous le signalais tout à l'heure, parce que le diable leur volait tout. Il y a des choses, vous les entendez, au travers de mon ministère. C'est mon devoir, ma responsabilité, c'est un honneur, c'est mon travail pastoral. Vous les entendez. Maintenant, à vous de les appliquer. À vous de dire, mais c'est vrai, j'ai quand même moi aussi, j'ai trouvé grâce à tes yeux, si je suis là dans ta maison ce matin, quand même, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors, mais qu'est-ce que je vais faire? Vous allez attendre le sermon de dimanche prochain? Où vous allez dire, mais moi aussi, je veux resacrifier ma vie. Mais je veux travailler pour ma famille, j'en reviens à mon chemin. C'est exactement ça. On veille sur les lentilles. Et on va s'appliquer à le faire. Mais ça serait beau quand même, que jeunes et vieux, nous puissions dire, mais moi aussi, moi je veux qu'il y ait un hôtel dans ma maison, et il s'appellera le même nom, l'Éternel Paix. Parce que je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Si vous ne l'avez pas, eh bien, faites-en une affaire sérieuse, remettez-vous au travail. Il vous la donnera, c'est un don. Ça n'a rien à voir avec des progrès. Quand j'aurai fait des progrès, j'aurai la paix. Non, la paix, vous pouvez l'avoir maintenant. À condition que vous réalisiez que vous avez trouvé grâce aux yeux du Seigneur, qui nous a laissé ces merveilleux commandements. Vous pouvez serrer sa parole dans votre cœur. Et dire, Seigneur, moi, j'aurai la paix multipliée parce que tu la donnes. Et je la procurerai aux gens que je côtoie dans l'église, à mes enfants, à mes amis, à mes frères, à Jérôme, à Monsieur de Dieu, à Michael, non pas Michael, mais à Sylvie. Je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Un jour, elle sera enlevée de la terre. Ne vous en privez pas tant qu'elle est disponible. D'autant plus que ceux qui vont participer à l'enlèvement auront une paix éternelle. Demandons-lui sa grâce. Fermons les yeux. et d'une manière consciencieuse. Peut-être que le Seigneur vous a parlé. Peut-être que vous n'avez pas besoin de demander à votre femme ou à vos enfants si vous avez la paix. Vous savez très bien que vous ne l'avez pas. Eh bien, appliquez-vous. Prenez compte si dimanche prochain, ou mardi soir, ou jeudi, chaque fois que nous nous retrouverons entre chrétiens, nous nous procurerions la paix. Est-ce que vous pensez que ça plairait au Seigneur, ça? Prenez compte, chaque fois que des chrétiens se retrouvent, paf, heureux ceux qui procurent la paix. Vous croyez qu'il y aurait besoin d'un réveil? Moi, je crois que le réveil serait déjà là. Je le crois vraiment. Relisez l'histoire des juges, relisez ces textes, mettez-vous à genoux s'il le faut, avec beaucoup de joie, beaucoup de joie. Ne vous traumatisez pas, ne vous culpabilisez pas, soyons simples. Soyons simples. Je vous donne la paix. Je vous donne la paix. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Nous aurions déjà été touchés que par la croix. Mais en plus, tu as daigné nous donner ta parole. Vraiment, Seigneur, merci pour ce bienfait. Merci pour la croix et le sang versé. Mais comment ne pourrions oublier ta parole, ta sainte parole qui est sortie de ton cœur. Toutes ces histoires plus belles les unes que les autres qui nous apprennent comment obtenir ou réobtenir cette paix qui n'est qu'un don qui découle de la croix. Aide-nous, Seigneur, à nous comporter comme Gédéon. Je te prie pour les paresseux dans l'Église, Seigneur. Je te prie pour eux, vraiment, Seigneur, te demandant de les délivrer de la paresse spirituelle et de faire de nous tous des hommes capables de nous perfectionner afin d'être des instruments de paix jusqu'à ce que tu reviennes nous prendre ou nous enlever. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.